Moi, je suis un peu du mouvement au café oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous convaincre au fait qu'en bas, je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a déclaré mardi 31 mai que l'enrôlement des Congolais vivant dans les pays étrangers pour les élections à venir va déboucher sur plusieurs problèmes techniques. Corneille Nanga a plaidé pour que l'enrôlement se fasse par échantillon des Congolais vivant dans un seul pays étranger en vue de réduire d'éventuels problèmes techniques qui peuvent survenir. Bon nombre de citoyens ont donné de la voix pour fustiger cette idée d'un échantillon qui, selon eux, conduirait à une injustice dans la mesure où les Congolais vivant dans d'autres pays non ciblés seront exclus du vote. Une autre opinion plaide plutôt pour l'identification des électeurs de l'étranger après les élections de 2016 pour gagner du temps. Qu'en pensez-vous? Nous avons invité pour vous dans ce studio Corneille Nanga Yobelo, président de la CENI, pour apporter quelques éclairages sur cette question. À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Standard, Hippolyte Kapanga, la mise en monde, Pierre Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebouzangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Corneille Nanga, vous êtes le président de la CENI. C'est un réel plaisir de vous recevoir pour la seconde fois dans ce studio. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà. Alors, d'entrée des jeux, est-ce qu'on peut peut-être nous faire une idée? Quelles sont les dernières avancées du processus électoral?
En fait, ça, je voudrais vous remercier d'abord pour cette invitation. En même temps, j'en profite pour remercier et saluer nos auditeurs qui me suivent en ce moment. Et vous souhaiter des bonnes choses. En fait, vous voyez, les avancées du processus électoral, il y en a, et comme nous l'avions dit à certains niveaux, nous pouvons plus ou moins indiquer que nous sommes entrés en fonction en fin novembre, et à partir de ce moment, nous avons procédé à une évaluation objective du calendrier global. De cette évaluation, nous avons dégagé deux axes. Le premier axe, c'est que nous avons constaté qu'il a des cas, le pays venait de se démembrer en 26 provinces, et que pour des raisons exceptionnelles, les nouvelles provinces étaient plus ou moins dirigées par des commissaires spéciaux, ce qui était plus une mesure qui ne répondait pas à la Constitution. De ce fait, la première action que nous avions dégagée, c'était d'organiser l'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. Nous avons organisé cette élection et nous pensons que c'était le point culminant de la réforme qui a été engagée depuis 2006 en rapport avec la décentralisation qui a consacré les 26 provinces. Le deuxième axe, c'était de voir ou de regarder ce qui était constitué plus ou moins les entraves à la poursuite du processus électoral qui était comme si c'était un plein panne. De ce point de vue, nous avons initié plusieurs actions, dont notamment la validation d'abord par le gouvernement d'un plan de décaissement qui devait couvrir l'année 2016. Et ce plan de décaissement a été validé. Il est en cours d'exécution depuis janvier jusqu'à ce jour par le gouvernement. Et il faut dire que c'est fort de ce plan de décaissement que nous avons pu entreprendre des actions qu'on va indiquer tout à l'heure. Bien plus, nous avions, sur le plan du gouvernement, acquis un important lot de matériel roulant, c'est-à-dire les Jeep 4x4 et qui sont distribués aujourd'hui au niveau de nos 26 provinces. Nous avons acquis 97 véhicules et qui attendent en termes de déploiement. Nous avons également initié une correspondance sollicitant au niveau de la Monisco l'appui logistique, qui est quand même un point important, qui est quand même un goulot d'étranglement, qui fait que sans cet appui, nous risquons de ne même pas observer les délais que nous avons proposés. À partir de là, le 10 février, nous avons publié l'appel d'offres et nous avons lancé le processus d'acquisition des matériels. Et dans les cas d'espèce, le plus important, c'est d'acquérir les nouveaux kits d'enrôlement. Ce processus, nous l'avons suivi depuis le mois de février. Et à ces jours, nous sommes plus ou moins, c'est ça la grande avancée. Nous avons déjà l'attribution provisoire du marché et nous connaissons donc le fournisseur des kits. Ce qui nous permet de dire que dans les heures qui viennent, nous allons signer un contrat, et le contrat qui permet la commande des matériels. Hors de ces matériels, nous sommes dans les perspectives, c'est hors de ces matériels que le 500 premier lot de matériel sera déployé à partir de la fin de ce mois pour permettre au lancement de l'opération d'enrôlement, l'identification et d'enrôlement dans la province du Nord-Ubangi. Bon.
Alors, autre avancée, c'est le débat qui a eu au niveau de l'Assemblée nationale. À ce jour, la loi sur l'enrôlement des électeurs est passée pour une seconde lecture au Sénat. Est-ce qu'on peut mettre ça dans l'actif des avancées actuellement du processus?
En effet, dans la mesure où cette loi aujourd'hui constitue l'un des éléments du schéma critique, c'est-à-dire que sans cette loi à une certaine date bien déterminée, nous ne serons pas commencés. Et c'était ça notre plaidoyer au niveau de la représentation nationale, où nous avons dit sans l'amendement de la loi portant identification et enrôlement de 2004, nous ne serons pas lancer l'opération, parce qu'il est question ici d'harmoniser les deux lois. La loi électorale qui autorise aujourd'hui nos compatriotes qui vivent en dehors du pays de voter, et ces droits ne peuvent être appliqués que si ces compatriotes sont inscrits aux listes électorales. Donc nous avons la CENI, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous avons servi d'experts techniques au gouvernement d'abord, parce que nous avons élaboré l'avant-projet de cette loi, et le gouvernement l'a adopté, c'est devenu un projet de loi qui a été transféré au Parlement. À la dernière nouvelle, nous apprenons qu'il est en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement pour l'adoption.
Alors, vous ne craignez pas, à partir de la participation des Congolais vivant à l'étranger, qu'on puisse connaître des problèmes, parce qu'en lisant l'exposé des motifs de cette loi électorale, il est dit que la République démocratique du Congo est à son deuxième cycle électoral, mais tout de même que tout le monde reconnaît que ce processus a donné lieu à diverses critiques, parce que, bon, des uns ont parlé des vérités des urnes, d'autres ont évoqué les questions des transparences, mais on va encore plus loin aujourd'hui, agiter un scrutin, une participation des Congolais à l'étranger qui, techniquement, selon certains observateurs, ça sera pratiquement difficile. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse jeter encore du discrédit dans ce que vous faites?
Ça dépend de quel type d'observateur vous parlez. Mais je pense que la structure qui est en charge la gestion des élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Et nous l'avions dit il y a quelques jours au niveau de la représentation nationale, la CENI a la capacité technique de prendre en charge cette question. Encore que l'option de dire oui ou non, il ne faut pas enrôler nos compatriotes de l'étranger, ça ne dépend pas de la CENI. La CENI applique la loi. Pour le moment, la loi exige que nos compatriotes votent. Et en conséquence, la CENI regarde qu'est-ce qu'il faut pour que cette loi soit appliquée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons, à cet effet, initié des études en collaboration avec les gouvernements, donc le ministère des Affaires étrangères, où nous avions monté une commission technique pour étudier toutes les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette option légale. Bon, nous avons étudié, nous avons vu, et ce sont ces
résultats. Quel est le résultat?
Les éléments de ces résultats sont coulés dans les projets de loi qui viennent. Entre autres, en termes de. Il y a par exemple la question de savoir qui est-ce qu'on va réellement enrôler là-bas.
Parce que le problème de double nationalité, c'est pour
ces problèmes. Les problèmes se posent, les problèmes ne manqueront pas, mais ces problèmes se posent, mais la loi nous donne plus ou moins les éléments qui nous permettront d'enrôler ces compatriotes. Qu'est-ce que dit la loi? La loi, au volet, je parle peut-être de la loi qui est en cours d'adoption, mais le projet indique que ne peut être enrôlé. C'est de nos compatriotes vivant à l'étranger qui devront avoir en cumulé soit le passeport congolais avec la carte de résidence qui prouve effectivement que vous résidez dans ce pays, ou encore la carte consulaire cumuler toujours la carte de résidence qui prouve que vous êtes dans un pays. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons des indications légales qui nous permettent, nous, à la CENI, de prendre en charge cette question, et il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que c'est facile? C'est comme toutes les autres opérations, il y a toujours des complexités. Nous ne pouvons pas dire que mais l'essentiel est que cette option politique traduite dans la loi, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit...
Voilà, tout à l'heure, on verra comment la CENI va s'y prendre pour que réellement ce renforcement de l'effectivité du droit des votes soit pour tous. Voilà, on va retrouver Hassan qui est à Kikwit, Maître Laurent à Kinshasa et Franck de Vienne, mais qui séjourne également à Kinshasa. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons le deuxième quart d'heure de cette émission, de cette première partie de l'émission. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, quel est votre avis par rapport à la thématique?
Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir pas comme un analyste, mais pas comme un responsable d'un parti politique interprovincial que le Congo m'a nommé. Monsieur Manga, je crois que la bataille était rude. Je vois un peu l'avenir, comment ça se présente. Vous avez donné vos indications. Mais j'aurais besoin de quelques précisions. Les compatriotes qui sont à l'étranger, dans des différents pays, comment vont-ils être enrôlés en les capitales de quelques nations ou dans leur province? Ça, c'est de 1. De 2, je crois que nous avons un problème sérieux. Le problème se trouve maintenant au niveau de la politique. Vous avez donné vos indications techniques, je les comprends, mais nous avons un problème au point de vue politique et au point de vue de notre constitution. Je crois qu'en tant que Congolais, vous devez faire votre travail tout en respectant aussi la constitution. Le délai constitutionnel que la constitution nous donne, par rapport au délai que vous avez donné de votre travail, je crois que c'est en dehors. Mais je voudrais bien avoir une certaine précision. Vous avez parlé de 16 mois, commençant du mois de janvier. Donc, il y a déjà 4 mois dépensés. Et vous, il vous reste quelques mois. Ma question, ma préoccupation est celle-ci. Quelles sont les conditions qui ne sont pas remplies et qui peuvent être remplies par le gouvernement qui doit vous financer pour que nous essayons d'enlever ce problème de durée et de la date constitutionnelle? Faut-il de l'argent? S'il y a de l'argent, est-ce que c'est possible ou pas de réaliser ces élections? Alors, à partir de là, si vous me répondez, nous, au point de vue politique, parce que je parle en tant qu'acteur politique, nous verrons dans la mesure.
Oui, oui, Arsène, Arsène. Arsène, quel est le commentaire vous vous faites concrètement en ce qui concerne l'activité de la CENI, qui, en fait, à partir de cette loi, une fois adoptée, pourrait donner le pouvoir de renforcer l'effectivité du droit de vote en accordant même ce droit à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Quel est votre commentaire?
Non, moi, mon commentaire, c'est que ce sont nos compatriotes, ils ont ce droit-là, ils doivent voter. Alors, quand il y a une opération qui se fait comme ça, et qu'on les mette à côté, ça ne va pas.
Très bien. Merci beaucoup, Arsène. Merci beaucoup, Arsène. Maître Laurent, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur J.
Quel est votre commentaire?
Oui, ok, j'aimerais dire ceci. Alors, Monsieur Corneille Nanga, le président de la CENI, ce qu'il doit faire, c'est de consulter toujours la Constitution, la loi fondamentale du pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'il peut parler de 16 mois d'enrôlement, nous, on se pose la question de savoir est-ce que c'est une seule machine qui doit commencer à sillonner chaque province où il a fait un budget pour qu'on puisse déployer les machines même dans 2 mois dans toutes les provinces là où il y a des centres d'enrôlement. Et puis, on donne directement le communiqué à toute la population en disant que l'enrôlement se tient pendant 1 mois et demi ou 2 mois. Donc, avec les 1 mois ou 2 mois de déploiement de matériel, donc dans 4 mois, on aura terminé l'enrôlement. Alors, mais je ne comprends pas les 16 mois-là, c'est en fonction de quoi, hein? Parce que techniquement, vous savez, la technologie a évolué, nous tous nous savons. Les ordinateurs, ce sont des machines qui, si vous voulez faire la révision du fichier électoral, c'est question d'effacer les données qui s'y trouvent parce que vous voulez reprendre les fichiers électoraux. Vous effacez même en 1 minute, on efface tout ce qui se trouve dans l'ordinateur et on recommence l'enrôlement pour identifier et enrôler ceux qui doivent voter. Alors, pourquoi on doit nous renvoyer dans 6 mois? Et surtout, je lui dirais ceci, qu'il se méfie de tous les politiciens, quelle que soit de l'opposition ou de la majorité, parce qu'il n'est que seule la loi qui est au-dessus de tout le monde. Lui doit voir plutôt la loi, la Constitution. Et pour ce qui est pour lui faciliter encore la tâche, je lui demanderai, et je le soutiens même pour qu'il ait seulement quelques antennes à l'extérieur du pays, même 3 à 4. Parce que même dans notre pays ici, il y a des gens qui vont faire
tout. Oui, alors, Maître Laurent, est-ce que vous estimez pas, vous estimez pas comme les autres, qu'effectivement, aujourd'hui, avec les avancées réalisées au niveau de la loi qui vient de passer au niveau de l'Assemblée nationale, pour une seconde lecture au Sénat, il y a certainement des avancées ou des signaux qui annoncent déjà que les délais sera respecté.
Bon, là, jusque-là, je ne vois pas que le délai sera respecté. Pourquoi? Parce que quand déjà on sait que l'enrôlement c'est pour 16 mois, c'est que pour quant à ce qui est de l'élection présidentielle, la Constitution lui recommande 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.
Merci beaucoup, Maître Laurent.
Quand il doit aller au-delà, c'est la Constitution qui va l'arrêter.
Merci beaucoup, Maître Laurent. Franck, vous êtes à Vienne. Voilà, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes Franck de Vienne. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde de votre équipe, aux auditeurs de la radio Café et surtout à votre invité qui est au studio.
Et quel est votre avis?
Et merci beaucoup. Vous me permettrez d'intervenir en 2 petits points. Au premier, il s'agirait d'une brève interpellation citoyenne et au second, on peut faire quelques suggestions techniques par rapport à la thématique du jour. Comme interpellation technique, l'on doit rappeler ceci. Tous les Congolais vivant en dehors de nos frontières nationales, qui ne se sont jamais fait naturaliser mais gardent leur nationalité d'origine, sont des citoyens congolais à part entière et doivent jouir de tous leurs prérogatives citoyennes, notamment les droits de vote. Et si un dossier qui cherche à les diviser, le bon sens et le vrai patriotisme, selon moi, exigeraient qu'on trouve des solutions durables en toute quiétude. Personnellement, je m'inscris en faux contre ceux qui pensent que, vu certaines contraintes techniques et temporelles, il faut les mettre à côté. Ça risquerait de créer des fossés citoyens sans nécessité alors que la majorité des citoyens congolais militent pour la paix et le calme. Mmh. Au second point, quant à certaines suggestions techniques, je m'adresse directement à votre invité au studio. Monsieur le président de la CENI, avec tout le respect qu'on vous doit, vous devez savoir que les gardes citoyens congolais avertis et instruits sont braqués vers vous et votre organe d'appui à la démocratie. L'opération de refaire les fichiers électoraux est un long processus, nous le savons. Par rapport aux Congolais de la diaspora, l'on peut vous suggérer d'impliquer certains services diplomatiques de certains pays amis et frères ayant leur représentation diplomatique chez nous. Je m'explique pour être clair. Chaque pays qui a une ambassade ou consulat chez nous peut facilement faciliter à la CENI beaucoup de choses. C'est question de leur demander, par exemple, officiellement, de mettre à votre disposition le nombre de Congolais vivant dans leur pays et surtout des Congolais qui ont gardé leur nationalité et leur âge. Et à partir de ces éléments, vous allez voir comment on peut les recenser avec autant de facilité. Puis des deux, si vous acceptez la suggestion d'impliquer ces services diplomatiques, on peut aussi, comme les pays européens sont aussi vastes, demander à chaque préfecture ou à chaque mairie de chaque ville où il y a des Congolais de vous envoyer les fichiers des Congolais non naturalisés. Et maintenant, avant d'obtenir nos séjours de là, on nous impose, nous sommes soumis à des emprunts. Donc, ils ont des banques de données qui peuvent les envoyer. Et je trouve que l'opération ne sera pas difficile à réaliser parce que même pour l'obtention de nos passeports biométriques, on va déposer les emprunts au bureau de nos ambassades et on les envoie ici pour imprimer.
Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. On revient dans ce studio. Corneille Nanga, président de la CENI. Vous avez suivi cette première série des auditeurs. Il y a des suggestions. Il y a également des points, en fait, qui renvoient au doute directement. Alors, quelle est votre réaction?
Tout d'abord, je voudrais remercier les intervenants pour leur franc parler et puis la pertinence des éléments qu'ils soulèvent. Certains d'entre eux sont des propositions que nous prenons avec beaucoup de que nous prenons et que nous allons étudier pour nous aider à avancer. Tout ce qui est constructif pour nous nous permet d'avancer et vraiment le bienvenu. Aussi. Monsieur Arsène,
qui parle des problèmes politiques.
Il parle des problèmes politiques. Oui, je pense que sa lecture est vraie. Il y a certes des problèmes politiques, tout comme il y a des problèmes techniques. Nous soulevons ici les problèmes qui nous concernent, plus ou moins qui sont techniques. Il a posé la question de savoir l'enrôlement des Congolais de l'étranger va se faire au niveau des capitales ou bien au niveau des provinces de ces pays. Tout ça, c'est une question technique, problématique technique que nous allons, dont nous allons présenter les procédures dans les jours qui viennent. Tenez, nous prévoyons l'acquisition de 20 000 kits d'enrôlement contre 10 000 kits en 2006 et 2005 et 2011. Ça, c'est une volonté que nous avions aujourd'hui de faire en sorte qu'on aille beaucoup plus rapidement. Où est-ce que nous allons enrôler ces compatriotes qui vivent à l'étranger? Nous allons utiliser les infrastructures qui sont à notre disposition. Et dans les cas d'espèce, je pense que ce sont nos représentations diplomatiques qui nous allons appuyer sur eux pour pouvoir
régler les questions.
Et puis bon, 16 mois, j'ai un correctif d'abord. Les 16 mois ont commencé à compter au mois de février parce que nous avons publié l'appel d'offres le 10 février. Alors, quelles sont les conditions qui ne sont pas encore remplies pour permettre à ce qu'on fasse le tout en 2-3 mois comme ça? Non, le problème ici n'est plus, la question n'est plus ici de savoir s'il y a des moyens ou autre. Nous avons dit, c'est fort d'un plan de décaissement que nous avons validé avec le gouvernement, que nous avons lancé ce processus, et donc sur ce point-là, il y a une nette avancée. Bon, mais il arrive à un moment, quand nous parlons des questions électorales, et ce n'est pas que des moyens. Il y a par exemple une tâche que vous devez faire en 2 jours. Écoutez, même si vous vous donnez, vous doublez les moyens, vous triplez les moyens, et à un moment donné, si vous n'atteignez, vous n'avez pas ce temps-là, vous ne pouvez pas le faire. Dans les cas d'espèce, quand je parle de 20 000 kits, ne pensez pas que les 20 000 kits sont dans un entrepôt. Le jour où nous passons la commande, c'est à ce moment que les fournisseurs commencent à en fabriquer. Il a besoin d'un temps. Alors quand il la fabrique, C'est en ce moment que nous prenons ce qui est fabriqué pour commencer le déploiement. Ce sont des délais qu'on appelle délais contraignants, qui sont incompressibles et pour lesquels vous ne pouvez pas dire que non, parce que vous avez des millions, vous avez doublé les ressources, vous n'allez plus les faire, vous pouvez diminuer les temps. Ça, ce sont des, et c'est ce que nous appelons schéma critique de notre chronogramme. Et il y a des activités dont les délais restent contraignants, et quand nous vous parlons de 16 mois, nous avons parlé de 16 mois, tenez Arsène, c'est que nous avons pris les options les plus, l'option la plus minimaliste possible qui nous permet de faire ça. Oui, nous l'avons dit d'ailleurs, nous avons connu un retard. Et ce retard, les activités que nous avons commencé en février 2016 auraient dû commencer en mars 2015. Ça, c'est un, les temps ne se compriment pas. Donc, c'est un peu ça, cette contrainte qui est devant nous. Alors, Maître Laurent, qui dit ça, merci beaucoup pour cette question, ô combien pertinente. Ce que je dois faire, c'est consulter
la centrale de machine.
Et son conseil.
Vous disiez à Kinshasa.
Oui.
Et attendre la même machine, il va faire les déplacements.
C'est ce que je regarde. Il a commencé par donner conseil que je regarde la Constitution.
Mm-hmm.
Nous regardons seulement la Constitution. Mais nous avons, en plus du fait que de regarder la Constitution, nous devons vous dire la faisabilité technique de la réalisation de ce que demande la Constitution. C'est ce que nous avons fait. Et puis, tenez, maître. Nous pouvons beau crier respect de tel délai, respect à telle date, en faisant ceci. Nous ne le ferons pas si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est nous vous avons montré le chemin pour arriver à ce que nous attendons tous, l'escritin. Et nous vous avons dit pour ce faire, il y a telle ou telle dimension. Entre temps, lui propose un mois et deux mois. Oui, ça, je lui concède tous les éléments. Mais la question, c'est de dire deux mois en faisant quoi? Il y a ce qu'on appelle, je vais vous dire que non, il y a pour arriver à cette fin. Qu'est-ce qu'un chemin critique dont je parle dans les élections ici? Le chemin critique, c'est une succession d'activités dont la caractéristique est que vous ne pouvez pas commencer la seconde si la première n'est pas terminée. Dans les cas d'espèce, rien que pour la révision du fichier électoral, je ne peux pas commencer l'enrôlement si je n'ai pas les matériels. Et je ne peux pas commencer le matériel, je ne peux pas avoir le matériel si je n'ai pas passé commande. Je ne peux pas passer commande si je n'ai pas passé l'appel, disons l'appel d'ordre. Ce sont des successions d'activités et ça se poursuit, ça ira jusqu'à la consolidation des données qui nous permettront de passer à la répartition des sièges. Ces activités, c'est la sommation de ces activités en termes de délai qui nous permettent de dire qu'il nous faut deux mois. 3 mois, 4 mois. Je comprends que la volonté des uns et des autres, c'est qu'on aille vite, y compris la commission électorale indépendante, et ce que nous faisons, votre serviteur ne fait que ça. Nous ne faisons que ça et nous sommes en train de trouver des mécanismes pour y arriver. Alors, Monsieur Franck, merci, je comprends que certainement vous connaissez plus ou moins les réalités qui sont de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Et nous prenons bonne note des suggestions que vous nous avez données en termes techniques et je vous garantis que ces suggestions ont été déjà prises en compte au niveau de l'étude que nous avons menée avec le ministère des Affaires étrangères. Je voudrais tout de même apaiser les uns les autres pour dire que l'impact, disons, l'opération d'enrôlement, l'identification d'enrôlement de nos compatriotes de l'étranger peut a certain impact sur les délais. Mais nous, on a mis ça dans les 16 mois. Mais son impact peut être relativisé dans la mesure où les données de nos compatriotes ou les électeurs de l'enrôlement de nos compatriotes de l'étranger n'entrent pas dans la ligne critique dès lors que les compatriotes de l'étranger ne vont voter que l'élection présidentielle. Et ce faisant, ils ne sont pas nécessairement concernés par la répartition des sièges pour les autres scrutins.
On va passer à l'autre côté du standard avec Serge, Maurice et Innocent, 081-899-75 pour votre intervention directe.
Du nouveau sur Radio Capi. Une heure pour parler des réalités chinoises, de 16h à 17h, heure de Kinshasa. L'information de proximité en lingala et en français. Société, santé, environnement, économie, culture, sport et politique. Décryptage de l'actualité dans la capitale, vos communautés et offres d'emploi, c'est dans Info Service. Au menu également, de la défense avec des humoristes de Kinshasa. Le décrochage de Kinshasa, c'est Radio Capi, près de chez vous.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs. Nous entamons la dernière demi-heure de cette émission. Maître Serge, vous êtes à Kamina, Maurice à Kinshasa, Innocent à Kamina. Maître Serge, bonjour.
Bonjour, J.R., bonjour, cher invité, M. Korchmanga.
Quel est votre commentaire?
Oui, moi, je voudrais lui poser la question et savoir sur quelle base il s'est appelé pour seulement cibler la province dont il a dit qu'il fallait commencer à enrôler là-bas. Est-ce qu'il s'est au moins rendu aussi compte des infrastructures, des routes? Moi, je suis allé travailler en 2006 du côté de l'Ouabo. Mais là, pour le moment, il n'y a plus de moyens. Vous ne venez pas de faire votre main là-bas. Comment est-ce qu'on va déployer le matériel pour arriver là-bas? C'est un problème incandescent. Il fallait d'abord s'atteler à l'infrastructure, puis commencer maintenant à chercher d'autres choses. Nous avons fait dans la rivière, je vous dis,
oui,
à monter et à pied. Avec quel argent on peut passer là-bas? Sinon, en tout cas, là, nous sommes en train de répéter. Et puis, le deux, pour les nouveaux majeurs, ils ont vraiment un tellement droit de voter aussi d'être enrôlés. Hein, c'est là qu'ils sont les étrangers. Nous en avons. Il y a encore les policiers qui veulent être condamnés. Tout ça, on devait quand même critiquer les institutions là pour trouver une solution par rapport à ça. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer et affirmer ça.
Merci beaucoup, Maître Serge. Vous avez évoqué le problème d'accessibilité. Hein. Il y a des coins qui sont vraiment inaccessibles. Et quel est pourquoi d'avoir pris cette option de pouvoir commencer de manière pilote dans ces coins du pays qui, du reste, selon vous, est vraiment inaccessible et impraticable, les routes, donc on ne peut pas vraiment organiser. Et puis, vous avez évoqué la question sur les droits des votes. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté le nouveau majeur pour permettre à ce que le processus avance à grande vitesse? Merci beaucoup. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Maurice, vous êtes avec nous?
Je vous salue, Gérard Nguembo. Je salue également le président de la CENI qui est sur le plateau de Radio Capi.
Oui, quel est votre avis?
Oui, permettez-moi, Gérard Nguembo, de revenir rapidement sur mes propos de la fois dernière lors du premier partage du président Nanga sur Parole aux auditeurs. Je disais qu'il est bouc émissaire, j'ai utilisé, ce n'était pas, je ne voulais pas dire que M. Nanga était un bouc émissaire. C'est que je refusais qu'on lui fasse jouer ce rôle de bouc émissaire pendant que la situation était de manière délibérée, organisée, pour qu'on arrive à un blocage et qu'on justifie l'absence des moyens pour que ces gens qui sont aux affaires se maintiennent au pouvoir contrairement en fait au prescrit constitutionnel. C'est ce que je voulais dire. En fait, c'était juste un recadrage que je voulais faire, profitant en fait de l'occasion que les gens nous l'avons. Alors, je dis ceci. Pour parler du sujet, je voulais même qu'à la place de M. le Président de la CENI, qu'on nous fasse venir M. Matata ou M. Bahati, qui a affirmé, il vous souviendra, dans une émission, je crois, à la RNC, qui a affirmé que le gouvernement congolais déboursait les moyens conséquents chaque mois pour le fonctionnement de la CENI. Ce qui a été, en fait, contesté par la CENI, à l'époque, c'était avec l'ancien vice-président, même c'est ça même qui a constitué la cause même de son limogeage. Alors, mais tel qu'il est là, M. Nanga a reçu une mission d'organiser les élections. Et ces élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Alors, je disais la fois dernière qu'il est impossible, ça il faut quand même qu'on se le dise, à moins que nous voulons une élection bâclée.
Je crois que vous avez suivi l'émission depuis le début. Je ne sais pas si vous avez pris en cours. Nous avons dit qu'il y a des avancées qui ont été réalisées. Entre autres, aujourd'hui, avec le projet de loi, ou la loi sur l'enrôlement des électeurs, et au-delà de cela, avec cette passation des marchés pour acquérir l'acquisition des kits électoraux. Alors, déjà, il y a des signaux forts qui annoncent que ça pourrait être possible, comme l'a dit également notre invité lors de son premier passage dans cette émission, pour dire que ça peut être possible. Mais si jamais toutes les indications sont claires, il y a des indications sur la logistique aujourd'hui qui sont apparemment claires, il y a d'autres indications qui restent, entre autres l'indication politique. Donc il y a d'autres options qui restent encore en discussion.
Voilà, c'est ce que je dis. Quel que soit le miracle qu'on pourra opérer, M. Jérôme Gumbo, à cet instant ici, organiser 11 scrutins, parce que nous sommes en train, en fait, de nous conformer, parce qu'il y a un seul calendrier juste là, qui est en vigueur, c'est le calendrier qui programme 11 scrutins, en fait, dans l'espace, en fait, de 6 mois, non, pas même 6 mois, dans l'espace, je crois, de 3 mois, qu'on doit organiser les élections. C'est-à-dire, s'il faut prendre cet aspect, alors, il faut bien d'abord se demander, en toute honnêteté, est-ce qu'il sera possible d'organiser 11 scrutins dans les délais de 3 jours, de 3 mois qui nous restent? Alors, quels sont les moyens? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train, M. Nang est en train, en fait, de se baser sur la promesse, en fait, de la MONUSCO. Alors, quand est-ce que cette promesse, en fait, de la logistique sera, en fait, rencontrée? Alors, quand est-ce qu'on va déployer? Parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'ont jamais circulé le pays, mais nous qui savons quelques coins, en fait, de la République, je ne pense pas que dans les délais qui nous est impartis, qu'on organise des élections crédibles, apaisées dans ce pays. Alors, voilà. Par exemple, nous disons ceci. Au lieu que M. Nanga nous fasse en fait de la litanie, nous comprenons qu'il est vraiment technicien parce qu'il n'est pas né de la dernière pluie au niveau de la CENI. Il connaît bien en fait son travail, mais actuellement le problème ne se pose plus sur le plan technique. Le problème se pose, il faut qu'il nous laisse nous réduire cette affaire. Nous,
société civile, et le politique. Oui, Boris, quand vous dites vous qui?
Nous, de la société civile et l'opposition politique, régler cette situation parce que nos adversaires ont tenté créer cette situation de manière délibérée pour nous amener dans ce chaos.
Voilà, merci.
Que nous tenons la solution.
Alors, vous allez, de quelle manière allez-vous régler cette affaire?
Mais, contrairement à l'article 64, monsieur Léon.
Voilà, merci beaucoup, Maurice. Antoine Nyambane, vous êtes en Mozambique. Vous êtes avec nous, bonjour, et merci de nous avoir rejoint.
Bonjour,
voilà, Antoine.
Nyambane, au Mozambique. Oui.
À Nyambane. Voilà, Nyambane, au Mozambique.
Oui, oui.
Voilà.
C'est Antoine Mouguez ici. Bon, concernant le thème dont tu es en l'air actuellement. Oui. Allô?
Voilà, on comprend. Là, il y a quand même un petit décalage. Hein. Quand vous parlez, il y a des petites coupures. Bon, ça se comprend avec la distance. Antoine, oui. Allez-y.
Oui. Oui, je voulais dire que si, je viens de suivre tout à l'heure le président de la Commission nationale d'élection concernant le chronogramme qu'il est en train de donner. Mais je voulais seulement dire que, au-delà de tout ce qu'il est en train de dire, j'ai vécu de vous dire que ce qu'il promet qu'il sera réalisé dans les temps même les 16 mois, ce ne sera pas possible. Parce que nous qui sommes d'abord ici, à l'étranger, il sera pratiquement impossible à la Commission nationale d'élection de pouvoir résoudre les problèmes d'enrôlement. Prenons un cas par exemple. Rien qu'on a actuellement introduit le nouveau système d'édition des passeports biométriques. Mais nous qui sommes ici, par exemple, au Mozambique, quand vous procédez à la capture des données et que les données doivent être. On nous a dit que quand vous faites la capture ici et que les passeports seraient normalement émis directement au lieu où vous avez fait la capture. Ça, c'est ce qui a été dit.
Techniquement, ça n'a pas été possible.
Rien que pour le passeport. Vous faites la capture ici. Le dossier est envoyé de nouveau à Kinshasa. Il faut attendre plus de 6 ou 8 mois pour que le passeport puisse arriver ici. Alors, rien que pour ce genre de problème. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de l'enlèvement des Congolais sur l'ensemble du monde ici et que ce sera fait dans les temps que nous sommes en train de
faire? Voilà, si, je comprends bien
votre point. Le deuxième point.
Oui, allez-y rapidement, oui.
Oui. Le deuxième point, quand il parle normalement que pour pouvoir commencer les opérations d'enrôlement, il fallait d'abord qu'on ait des machines, des histoires comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a, lui, quand on lui a donné cette tâche, s'il avait vu que réellement qu'il ne sera pas mesuré selon les moyens qui étaient mis à sa disposition s'il n'avait pas d'enfant, pourquoi avait-il accepté cette tâche?
Merci beaucoup, Antoine.
Comme ça, je vous dis sincèrement, ce sera difficile.
Ça sera difficile, Antoine. Oui. Voilà, Innocent, vous êtes à Kananga. Bonjour, Innocent.
Bonjour, bonjour, JL. Bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Okapi.
Quel est votre avis?
Mon avis, je voudrais seulement d'abord vous dire merci à la radio Okapi et aussi remercier le président de la Commission électorale nationale indépendante. Je m'attelle surtout sur le dernier mot indépendant. Est-ce que le président la CI, en donnant toutes ces explications techniques, sociales et toutes ces explications qu'on sort, est-ce qu'il est vraiment dans son tout dans son sa chaise indépendamment? Non. Pourquoi? Parce que nous nous référons à eu quelques expériences. Du temps du fait Mobutu, nous avons vu qu'il y a eu enrôlement manuel de porte à porte. Moi-même qui vous parle, je suis un enfant d'un enseignant qui a été bien coopté pour faire ces enrôlements. Et ces enrôlements n'ont pas coûté au pays, à la République du Zaïre de ce temps-là, n'ont rien coûté. Pourquoi toujours le président de la CENI s'attend toujours sur des
moyens?
Par exemple, j'ai suivi mes prédécesseurs qui ont donné des difficultés. Parce que ici au Kassai, il y a des points. Même les véhicules qui ne peuvent pas se faire des points. Je ne pense pas avec ceux qui
ne sont
pas
d'avoir l'avocat à vous, là.
C'est quoi inaccessible. Mmh.
Merci voilà. Beaucoup, Innocent. Alors, Corneille Danga, vous venez de suivre cette longue série des auditeurs. Quelle est la réaction? Mais quand il y a quelque part, il y a un auditeur qui a évoqué la question, la difficulté en évoquant, par exemple, techniquement, aujourd'hui, pour obtenir un passeport au niveau de l'étranger, déjà, ça pose problème. Est-ce que cette même difficulté ne peut pas être. La CENI ne risque-t-elle pas de connaître la même difficulté? Et cela peut causer aussi préjudice à l'opération. Et surtout en ce qui concerne, entre guillemets, la fraude que les gens pourront brandir à n'importe quel moment, surtout le retard que cela prendra si on voit que ça ne sera pas transparent.
Oui, merci encore une fois pour nos compatriotes qui viennent de nous donner des questions très intéressantes. Je commencerai par la question de M. Innocent. Il parle de l'indépendance. Oui, la CENI est indépendante et la CENI exerce son indépendance conformément à l'environnement constitutionnel et institutionnel dans lequel elle se retrouve. Et elle lui propose pourquoi ne pas revenir sur l'enrôlement manuel comme le président, le président Mobutu l'a fait. Ce sont des options innocentes. Ce sont des options politiques qui ont été levées dans ce pays et ces options sont coulées dans la loi. Aujourd'hui, la loi veut indique que non, la CENI enregistre, fasse l'enrôlement des électeurs avec qu'il fasse un enrôlement non pas manuel, mais un enrôlement électronique pour permettre la biométrie. C'est coulé dans la loi. Demander aujourd'hui à la CENI de faire comme il faisait avant, ça serait violer la loi. Si vous pensez que c'est une option que vous proposez, proposez cette option au législateur et que le législateur coule ça sous forme de loi et la CENI va exécuter. Ce n'est vraiment pas un souci de la CENI. Monsieur Antoine, qui appelle de
Mozambique,
je salue en passant, il voit bien entendu des difficultés d'enrôlement qui sont liées au fait que il y a d'autres difficultés connexes. Ils n'ont pas la capacité, la possibilité d'avoir des passeports. Ça encore, c'est un souci qui ne relève pas de la CENI. On a tendance à donner à la CENI ce qui ne lui appartient pas. La mission de la CENI, c'est que en l'absence d'un registre d'état civil, la CENI procède à l'identification et enrôlement des électeurs. Et pour ce faire, la loi lui indique la façon dont cela doit se passer, en disant pour que l'on enrôle quelqu'un, il doit avoir tel document, tel autre document, tel autre document. Mais ne demandez pas à la CENI d'aller chercher ces documents pour les requérants. C'est aux requérants d'aller trouver, d'avoir les documents et se présenter à la CENI pour enrôlement. Si, Antoine, vous avez des problèmes pour avoir votre passeport, quand je compatis avec vous, je sais combien c'est difficile de vivre à l'étranger sans ce type de documents. Mais là, la CENI n'a vraiment pas...
Ce n'est pas une façon de vous prévenir pour mettre un peu de...
Non, mais est-ce que... je ne vois pas pourquoi la tricherie va venir à ça. Nous allons appliquer ce que dit la loi. La loi nous a dit, vous allez enrôler les Congolais, les compatriotes de l'étranger. Celui qui viendra avec un passeport accompagné de sa carte de résidence, ou alors s'il n'a pas de passeport, qu'il ait une carte consulaire, qui est d'ailleurs donnée au niveau des ambassades, une carte consulaire accompagnée de sa carte de résidence, vous l'enrôlez. C'est ce que nous allons faire. Certainement, il y aura des compatriotes qui ne sauront pas être enrôlés, juste parce qu'ils n'auront probablement pas ces documents. Les émissions que nous animons comme ceci, c'est aussi une interpellation pour demander à nos compatriotes qui ont ces droits de participer à la vie citoyenne du pays, c'est-à-dire au vote, de préparer en conséquence.
Ces représentations seront des BRTC.
Toutes ces représentations seront des centres d'inscription.
Des centres d'inscription.
C'est-à-dire, au niveau de ces ambassades, nous allons mettre notre personnel et nos équipements. À la différence, bien entendu, du passeport, nos cartes ne viendront pas, les données ne viendront pas à Kinshasa pour qu'on délivre la carte. Nous allons délivrer nos cartes instantanément. Donc, de façon instantanée, vous vous enrôlez, on vous donne votre carte d'électeur qui vous permet, bien entendu, d'enrôler. Maître Maurice, je ne sais pas si c'est maître, mais Maurice, merci encore pour cette question. J'avais d'ailleurs tenté de vous joindre la semaine passée au téléphone, je n'ai pas pu. Je pense que je le ferai encore. Parlant de bouc émissaire, je ne pense pas que j'ai bien compris votre précision. Et vous, là où je suis un peu embêté, inquiet, c'est que vous concluez en disant que qu'on vous laisse tout parce que puis vous allez utiliser l'article 64 pour régler les problèmes. Oui, c'est possible, c'est une option. Mais je me demande seulement si l'article 64, la question est vraiment destinée à régler ce genre de problème ou bien que ça va donner. Ce que moi je sais, j'ai confiance aux acteurs. Pour la CENI, nous avons confiance aux acteurs politiques et de la société civile du Congo. Il y a des extrémismes, il y a l'extrémisme partout, dans tous les camps. Que ce soit l'opposition majorité de la société civile, on sait voir l'extrémisme. Mais ce que je note aussi à la CENI, ça se positif, quels que soient les débats autour de toutes ces questions, vous sentez la responsabilité des uns et des autres, ce qui m'amène à croire que quelles que soient nos divergences qui sont réelles en termes démocratiques, moi j'ai espoir que dans les jours qui viennent, vous, acteurs politiques, dont M. Maurice, vous allez trouver des voies ou la sagesse qui nous permettra de nous sauver.
Mais à quand la publication du calendrier?
À quand la publication du calendrier? Nous allons, comme nous l'avions dit la fois passée, que la publication du calendrier était tributaire de certains facteurs. Et ces facteurs, entre autres, j'avais parlé des indications claires sur l'appui logistique. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Les indications claires sur les finances. Nous avons aujourd'hui nous avons plus ou moins un matelas qui nous permet d'acquérir les matériels et d'avancer, mais aussi il y a des indications politiques qui sont devant nous et nous pensons, et c'est là où j'ai dit je crois que les acteurs politiques congolais ils sont dans leur extrémisme ou dans leur... ils campent dans leur position, mais je sais qu'ils sont responsables. Ils savent trouver des solutions dans des moments...
Est-ce que vous permettez de parler? Il y a un peu de Canada.
Est-ce que vous permettez que je termine la question? Oui. Je réponds à Maître Serge. Je ne sais pas où bien je peux répondre après.
Après, comme ça, on conclura avec vous. C'est l'instant, vous êtes au Canada. Voilà, vous êtes de la diaspora canadienne. Célestin, vous êtes avec nous?
Oui.
Quel est votre avis, Célestin?
Oui, moi j'ai deux ou trois questions posées à Ménanga. Ma première question est de savoir, quand M. Nang est en train de nous faire voir qu'il a des difficultés de ceci et de cela, n'est-ce pas une façon de nous faire goûter ou nous faire accepter le message du président de la République la fois dernière, où il avait dit, j'ai demandé aux amis de la CENI d'attendre un peu. On passera à une façon de concrétiser la parole du président de la République, que M. Nang est en train de nous faire traîner dans la bouche. Pourquoi M. Nang n'est pas capable de nous dire la vérité en face et s'assumer? C'est-à-dire que nous sommes plus intéressés à voir les élections, cette fois-ci au moins, et qu'on ait une chance, mais la preuve qu'il est capable de nous couvrir, qu'il est congolais et qu'il aime le Congo. Nous voulons des élections, nous ne voulons pas autre chose. C'est pour ce que je disais, ça, à gauche et à droite.
Merci beaucoup,
Thérèse. La deuxième question, c'est de savoir, dans le passé, toutes les rectifications qui se sont déroulées par-ci par-là, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais nous sommes surpris cette fois-ci que
ça prend
la commande en retard, et puis qu'ils nous parlent de où il est comme test pilote là-bas. Pourquoi ce n'est pas que c'est en ligne, journée, toute la République est partout.
Merci beaucoup, Célestin. On n'a plus assez de temps. On prend Joséphine qui est à Boston, aux États-Unis. Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour Radio Okapi, hein. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais demander à M. Corneille Nanga. Un jour, je suis allée dans un magasin. J'ai trouvé quelqu'un. On me dit qu'il est congolais, il travaille là-bas. Je lui demande, tu es congolais? Il dit, oui, je suis congolais. Alors, je vais parler en swahili, en lingala, en chiluba. Il ne répond pas. Et puis je lui demande, est-ce que vraiment tu es un vrai Congolais? Il dit, non, tu vois, moi, il commence à... Mon père est de Rwanda, ma mère est... Moi, je dis, quelqu'un comme ça, hein? Parce que nous savons que la nationalité congolaise est exclusive. Hein? Quelqu'un comme ça, la personne, le service, le gouvernement congolais qui a donné à la personne comme ça son passeport, le passeport congolais, ce n'est pas le même gouvernement, la même personne, le même service qui vont te demander des échantillons. Un autre jour, nous sommes allés c'était pour prendre la nationalité américaine. On était là avec des Congolais. Chaque jour, on sait que ce sont des Congolais. Quand on arrive là-bas, on les appelle, on dit, tous les Congolais, mettez-vous debout, comme ça, on va vous donner vos nationalités. Ils ne se sont pas mis debout. On dit, tous les Rwandais, mettez-vous Congolais, mettez-vous debout. Ils se sont mis debout. Des gens comme ça.
Voilà.
Merci. Ils sont Congolais avec vous, mais quand ils vont prendre leur nationalité,
voilà, si j'ai compris, madame, je vous dis, vous exposez la difficulté, que rencontrera la CENI pour enrôler, la difficulté que rencontrera. Voilà, malheureusement, on n'a plus assez de temps. Merci beaucoup. Alors, Clément, on prend Clément rapidement. Clément, dans 30 secondes, Clément. Allô, Clément. Clément, vous êtes à Bokungu. Voilà. Malheureusement, Clément n'est plus en ligne. Monsieur Corné Nanga, c'est vrai, il y a des témoignages. Alors, j'imagine qu'il y aura vraiment des difficultés aujourd'hui, techniquement, on ne sait pas, identifier quel Congolais qui ne l'est pas à l'étranger.
Non, et il y aura des difficultés. Écoutez, je commence par là, Maître Serge. Pourquoi Norubangui? Il n'y a pas un critère. Ce que nous voulions, nous avons besoin d'une province pilote et il fallait faire un choix sur les 26 provinces. et les critères peut-être pour déterminer pourquoi Norouba n'acceptait pas que nous, que ce soit une province qui nous renseigne de toutes les difficultés possibles et nous permettront de les anticiper sur l'ensemble du pays. Nouveaux majeurs, policiers ou autres, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils soient dans le, qu'ils s'enrôlent? Non, ça c'est un droit constitutionnel qui indique que tout Congolais qui a l'âge de 18 ans participe au vote. Est-ce que les députés, oui, nous parlons des députés Célestin, nous ne présentons pas que les députés. Notre rôle, c'est de présenter la députée, mais aussi de proposer la solution ou l'action que nous avons déjà prise contre, pour résoudre cette difficulté. Nous ne parlons pas que des difficultés. Et ce que mon introduction, si vous avez suivi mon introduction ce matin, c'est que depuis décembre jusqu'à ces jours, nous avons fait énormément, nous avons pris énormément d'actions, et qui étaient des actions pour résoudre les difficultés qui étaient devant nous. La difficulté, il y en aura toujours, et il y en a toujours eu. Et les hommes sont faits pour résoudre les problèmes. Nous sommes là pour ça, mais nous devons vous en parler aussi. C'est pourquoi nous ne nous plaignons pas. Nous vous en parlons pour vous dire ce que nous avons entrepris comme action. Célestin dit qu'il cite la phrase, je ne sais pas moi, là, il donne une citation du chef de l'État qui aurait dit que non, et que la CENI attend un peu. Bon, personnellement, je n'ai d'abord pas suivi cette inscription, ou je ne sais pas moi, cette phrase. Encore que, ce que je peux dire ici, c'est que nous, la CENI travaille dans un cadre institutionnel. Le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Nous ne travaillons pas dans un plan quelconque qui nous soit dicté par tel ou tel autre camp politique. Nous travaillons pour les élections. Mais pour ces élections, nous avons la collaboration avec beaucoup de toutes les institutions pour nous permettre d'avancer. Madame Josephine de Boston, je suis d'accord avec vous et moi-même j'ai fait le constat de ce genre de questions. La vérité aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être Congolais sans parler aucune de ces langues. Mais je ne dis pas qu'il faut nécessairement parler pour être Congolais. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui notre nationalité est une et exclusive. Mais nous, pour ce qui concerne l'enrôlement, la CENI s'en tiendra à ce que lui donne la loi comme instrument pour cet c'est-à-dire pour enrôler, nous avons
Tourné Danga, président de la CENI, merci encore d'avoir répondu à notre appel. C'était un grand plaisir de vous recevoir pour la seconde fois dans ce studio. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs que nous préparons d'ailleurs autour du conclave qui se tient à Bruxelles.